Fréquence Mistral.
Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral pour un nouveau numéro de 100% foot spécial foot européen international. On va passer une petite heure pour débriefer toute l'actualité du football européen et mondial avec cette trêve internationale qui s'est achevée il y a 48 heures. On va revenir sur les matchs de différentes sélections, l'équipe de France, l'Italie. On va revenir sur les grandes lignes, sur le fiasco et cette élimination au stade des finales de barrage. Voilà, pour m'accompagner pendant cette heure, Monsieur Thierry Maude, alias Titi le Boss. Bonjour Thierry.
Bonjour Thierry.
Voilà, on salue tous nos auditeurs pour qui nous suivent chaque semaine et on va démarrer cette émission d'abord sur on va parler de l'Italie et d'abord sur la nomination de Roberto De Zerbi à la tête des Spurs de Tottenham. Voilà, un mois et demi après son départ de l'Olympique de Marseille, le technicien italien qui retrouve le championnat d'Angleterre et la Première Ligue sur un banc de Première Ligue avec une équipe de Tottenham actuellement 17e du championnat d'Angleterre avec un petit point d'avance sur West Ham. Voilà.
Bah, c'est pas une surprise hein, parce que déjà la saison dernière à l'OM, quand ça n'allait pas fort, il y avait déjà le Tottenham qui voulait le récupérer. La saison dernière, donc ils sont arrivés à leur fin maintenant, ils signent dans un club qui est pas très bien et qui risque de peut-être de descendre en championship si la fin de saison continue à être compliquée, et à voir s'il réussit à sauver les Spurs et voir s'il va continuer l'aventure la saison prochaine. Parce que bon, ça a été... les dirigeants de Tottenham le voulaient absolument, mais il y avait les supporters et des groupes là, qui étaient contre sa venue par rapport à sa prise de position par rapport au cas Mason Greenwood. Mais bon, c'est de l'extra-sportif et le président Lévy a signé Roberto De Zerbi. Donc bon, je pense qu'il est venu quand même là pour les six derniers matchs de Première Ligue avec un staff beaucoup plus réduit qu'il avait à l'Olympique de Marseille. Donc on va voir s'il arrive à s'en sortir.
Voilà, ben Roberto De Zerbi qui dirigera sa première séance d'entraînement avec les Spurs demain et qui démarrera pas ce week-end puisque c'est la Cup en Angleterre, mais la semaine prochaine avec un match compliqué à l'extérieur face à Sunderland, cette équipe de Régis Lebris qui marche plutôt bien, voilà. Et Roberto De Zerbi qui succède à un ancien technicien de l'OM, Igor Tudor, qui aura passé 43 jours à la tête de cette équipe de Tottenham.
Un passage express, on va dire.
Voilà.
Et le club de Sunderland, le club à Kirill.
Oui, Louis Dreyfus, propriétaire de cette club, équipe de Sunderland. Voilà, on a fait le tour concernant ce passage. On va évoquer donc les barrages avec les derniers qualifiés pour la Coupe du Monde. Il y avait des barrages intercontinentaux et européens aussi avec mardi l'Italie qui va rater de nouveau une
Coupe du Monde.
Une Coupe du Monde, voilà, la troisième d'affilée après l'édition 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Voilà, c'est encore raté pour les Transalpins avec un ancien technicien de l'OM encore sur le banc de la sélection italienne, Gattuso.
Ça commence à dater puisque la dernière participation, c'est en 2014. Et comme on dit chez nous et sur Marseille, quand on parle un peu de l'OM, mais les enfants d'une douzaine d'années en Italie, ils n'ont jamais vu la sélection italienne en Coupe du Monde.
Ouais.
Donc non, c'était à prévoir, puisque la sélection, les résultats, c'est... je trouve que c'est pas ça. Et puis après, on peut remettre en cause les choix de Gennaro Gattuso sur ses listes, sur les dernières listes. Et puis après, nous, on l'a vécu aussi en tant que coach à l'Olympique de Marseille. C'était pas non plus la panacée, quoi. Hein. Donc Je pense que ça va être très compliqué pour lui sur la suite de sa carrière.
Gennaro Gattuso, qui a pris ses fonctions il y a un an à la tête de la sélection italienne.
Peut-être que ça va s'arrêter très rapidement.
Et depuis son départ de l'OM, il y a eu un passage du côté de la Croatie sur le banc à Ajdu Split.
Mais qui s'est très mal terminé.
Voilà, on sait que... Il y a eu des passages en Espagne auparavant, du côté de Valence, qui ont été assez furtifs. Mais c'est vrai qu'on a connu le Gennaro Gattuso, grand joueur, grand milieu de terrain de la Squadra et de l'AC Milan. Mais c'est vrai que son démarrage sur le banc avec les différents clubs et là, la sélection italienne, c'est compliqué.
Ah bah, il n'a pas du tout la même carrière qu'il avait en tant que joueur. Donc déjà, en tant que joueur, c'était un joueur rugueux sur l'homme, pas spécialement très technique, mais qui était... qui faisait énormément de fautes et qui avait une grinta quand il était sur le terrain parce qu'il lâchait jamais rien, mais ça n'a pas été non plus un joueur de classe mondiale. Il a été dans l'effectif au Milan AC au bon moment et il a gagné des titres parce que le Milan AC dominait le championnat italien et puis à l'époque les Coupes d'Europe, donc il s'est forgé un palmarès comme ça, et on le voit qu'actuellement, maintenant, en tant que sélectionneur, ou même quand il était entraîneur de club, c'est très compliqué. Je ne sais pas ce qu'il va faire dans l'avenir, s'il va continuer à entraîner une sélection ou un club, mais je pense qu'il va falloir qu'il fasse le point sur l'avenir, sur son avenir surtout, et ce qu'il a envie de faire, soit continuer à entraîner ou soit arrêter totalement, parce que par rapport à cette élimination en Italie, ça passe pas du tout, quoi.
C'est vrai que ça fait grand bruit depuis 48 heures et cette débâcle sur la pelouse de Zenica face à la Bosnie. Pour l'instant, Gennaro Gattuso, il a encore la confiance de son président de la fédération, oui, Gabriele Gravina, qui veut le maintenir. Mais bon, jusqu'à quand
Mais après, quand on regarde bien...
Telle est la question.
L'analyse du match de mardi soir... Je vais dire que la qualification de la Bosnie, elle est amplement méritée, parce que dans le match, si le gardien bosniaque ne fait pas cette erreur de relance sur l'ouverture du score de Moiskin, les Italiens, ils sont aux abonnés absents.
Après, il y a une petite polémique avec l'arbitrage de Clément Turpin qui dirigeait cette rencontre sur le but égalisateur bosnien et cette faute sur le joueur de l'AS Roma, Gianluca Mancini. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Après, pour moi, M. Turpin, je ne le vois pas faire un mauvais match. Il y a un règlement, il applique le règlement. Quand tu annihiles une action de but en tant que dernier défenseur, tu sais très bien que les arbitres, généralement, c'est carton rouge. Donc là, les Italiens crient au scandale parce que c'est soi-disant M. Turpin qui n'a pas qualifié l'Italie, mais il menait 1-0 avant que le joueur italien soit exclu. Il fallait mettre le deuxième but et puis ils auraient été aux États-Unis. Hein. Donc le truc, pour moi, c'est faut pas rejeter la faute sur le dos de l'arbitre, quoi. Donc les joueurs qui composaient cette équipe le mardi soir ne supportaient pas la pression, faut faire un autre métier, quoi.
Oui, voilà, l'Italie a raté la qualification. Puis bon, c'est vrai qu'il y avait déjà eu ce match difficile jeudi dernier à Bergame face à l'Irlande du Nord en demi-finale de barrage.
Il gagne 2-0, oui.
Oui, il gagne 2-0.
Mais c'était pas non plus...
C'était pas un match complètement abouti et totalement maîtrisé par cette équipe d'Italie.
Maintenant, voilà, la sanction est tombée. À eux de tout reconstruire et puis essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde 2030.
On verra comment les internationaux rebondissent. Après, on y reviendra, puisqu'il y a quand même pas mal de joueurs qui vont regagner leur club avec des confrontations directes, puisqu'il y a ce week-end en championnat d'Italie, il y a un Inter-Roma qui est prévu dimanche soir à San Siro, où on retrouvera Di Marco, Barella, Mancini, Bastoni aussi, qui a pris un carton rouge mardi à Zenica. Et puis bon, il y a aussi... des joueurs du Napoli qui courent un gros match avec la réception du Milan au stade Maradona lundi soir, à l'occasion du week-end de Pâques.
Non, je pense que de toute manière, les internationaux, ils arrivent à, comment dire, à zapper rapidement les derniers matchs internationaux et puis à se reconcentrer sur leur club. Et après, je pense qu'il y a des journalistes qui les interrogeront par rapport à cette élimination, mais les joueurs rebondiront en disant que de toute manière, maintenant, ils sont concentrés sur la fin de saison avec leur club et puis ne parleront pas de la monumentale élimination qui fait tant mal aux Italiens, quoi.
Voilà. Juste avant de conclure et de refermer ce chapitre sur l'Italie, un petit mot sur Gigio Donnarumma, le portier italien qui a quitté le PSG, qui jouera pas de Coupe du Monde pour l'instant, à 27 ans.
Il est peut-être pas fait pour aller à la Coupe du Monde. Est-ce qu'il dans 4 ans il sera toujours titulaire dans la squadra? Ça, c'est.
Il aura 31 ans pour l'édition 2030.
C'est pas vieux. Voilà. Mais je pense que il n'est pas non plus innocent sur l'élimination, sur la séance de tir au but. L'année dernière, avec le PSG, avant qu'il soit transféré...
Il avait réussi à être décisif à Anfield face à Liverpool du huitième de finale de Ligue des Champions.
Et là, il passe complètement à travers. Je pense que la pression est trop énorme, simplement.
Il y a toujours ce plafond de verre. Voilà, on va passer à un autre match de la zone Europe avec la Tchéquie qui a éliminé le Danemark. Voilà, 4-1. Et bon, c'est dommage. Côté danois, il y a Pierre-Emile Højbjerg, le capitaine de cette sélection, qui a été nommé capitaine de l'Olympique de Marseille avec Abby Bey. C'est voilà, les Danois qui sont habitués régulièrement à jouer disputer cette Coupe du Monde et ne verront pas les États-Unis.
La Tchéquie, c'est une bonne équipe, attention, avec l'ouverture du score là, du
Pavel Souč, l'international tchèque de l'Olympique Lyonnais.
De Lyon, oui. Et même quand on voit comment tournent les clubs tchèques en Coupe d'Europe, ils ne sont pas si mauvais que ça. Donc, certes, c'est une petite sélection, mais ils arrivent à avoir des bons résultats. Et au final, on voit qu'ils éliminent le Danemark au tir au but et leur qualification est amplement méritée pour aller à la Coupe du Monde.
Voilà.
Maintenant, dans quel état on va récupérer notre capitaine Pierre-Emile Højbjerg?
Telle est la question pour le déplacement au Stade Louis II dimanche soir face à l'AS Monaco. Match décisif pour la fin de saison de l'Olympique de Marseille.
Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, là, pour les joueurs italiens, les internationaux, quand ils reviennent dans leur club, ils arrivent à zapper.
Ils arrivent à switcher immédiatement.
Parce que sinon, si tu switches pas, tu t'enfonces dans une mauvaise direction et pour rebondir après avec ton club, c'est compliqué. Donc maintenant, il faut c'est le prochain match, c'est dimanche avec l'OM contre Monaco et malheureusement, ils vont pas aller aux États-Unis cet été.
Ouais, d'autant plus que c'était le seul joueur qui était concerné par un match décisif officiel avec sa sélection, puisque tous les autres joueurs qui sont partis en sélection jouer des matchs amicaux, voilà. Après, donc on va évoquer aussi la qualification de la Turquie face au Kosovo, un petit but à zéro.
Ça a été un match compliqué puisque c'est pareil, l'enjeu était important et celui qui gagnait était qualifié pour la Coupe du Monde. Donc la Turquie, l'expérience de l'effectif de la sélection turque, je pense, a primé par rapport à cette petite sélection du Kosovo.
La Turquie qui est entraînée par un technicien italien, Vincenzo Montella. On parlait encore de...
Tous les techniciens italiens sont dans les sélections étrangères, mais il n'y a pas le meilleur sur la squadra.
Voilà. Et donc, on va évoquer aussi le dernier match dans cette zone Europe. Un autre pays scandinave, la Suède, qui prend le dessus sur la Pologne
dans les arrêts
à Solna. Voilà, avec
un 3-2.
Voilà, un nouveau but décisif de Victor Gyökeres, l'attaquant d'Arsenal, qui a réussi à qualifier son pays pour cette Coupe du Monde.
Ouais, c'est vrai qu'ils ont eu la chance de marquer là, dans le temps additionnel là, avec Joe Kerres. Là, c'est vrai que je voyais une nouvelle séance de tir au but se profiler sur ce match-là aussi. Et puis finalement, ils ont réussi à gagner ce match 3-2. Et, très content que la Suède se qualifie parce que c'est une sélection qui, comme la Norvège, qui progresse au fil des années, des saisons, avec des joueurs intéressants. Donc c'est très bien pour eux qu'ils aillent aux États-Unis cet été.
Avec un technicien britannique, Graham Potter, sur le banc de cette sélection de la Suède, qui a eu des débuts compliqués en première ligue, mais bon, qui a su rebondir avec cette équipe suédoise et qui la qualifie pour sa Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Non, franchement, c'est bien pour eux, puis pour l'expérience de cette compétition, c'est très bien.
Voilà, et donc on va passer aussi au match de barrage intercontinentaux avec la République démocratique du Congo qui a validé son billet face à la Jamaïque.
1-0
avec le capitaine Chancel Mbemba qu'on connaît bien du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, le Congo, anciennement Zaïre, qui n'a plus connu la Coupe du Monde depuis 1974, 52 ans.
C'est ça, qui ne s'était pas qualifié pour la CAN et qui...
Ils étaient au Maroc cet hiver. Ouais. Voilà. Qui a été éliminé face à l'Algérie.
Il fallait qu'ils jouent les barrages pour aller à la Coupe du Monde. Et content pour cette sélection aussi, qui mérite aussi amplement d'aller à la Coupe du Monde. Mais alors après, c'est pour un pays d'Afrique, c'est compliqué d'aller jouer les barrages là, face à...
On rappelle pour nos auditeurs que la République démocratique du Congo a joué son match de barrage au Mexique.
C'est
vrai que la FIFA avait désigné le Mexique pour les deux rencontres de barrage intercontinentaux. Donc voilà, cette rencontre s'est jouée à Guadalajara, il me semble. Voilà.
Donc content pour la République démocratique du Congo là, qui aille à la Coupe du Monde.
Voilà. On suivra Cédric Bakambu aussi, qu'on a connu du côté de l'Olympique de Marseille,
aussi,
voilà, qui fait les beaux jours du Betis Séville actuellement en Liga espagnole. Voilà. Et avec un technicien français, Sébastien Desabre, qu'on a connu sur le banc des Chamois Niortais il y a quelques temps. Voilà. Et un dernier mot aussi sur ces barrages avec la qualification de l'Irak face à la Bolivie 2-1, l'Irak qui prendra place avec l'équipe de France. Voilà, donc,
mais est-ce qu'ils vont y aller par rapport à la situation géopolitique
Là, pour l'instant, on parle de l'Irak, pas de l'Iran.
L'Irak, oui.
Voilà. Exact, oui. Donc pour l'instant, l'Iran a été confirmé dans la liste des 48 pays participants à cette Coupe du Monde. Mais bon, après, l'Irak, qui est passé par les barrages et qui a validé son billet en s'imposant 2-1 face à la Bolivie.
Après, je ne connais pas le niveau de la sélection. Moi, je pense que c'est des petites sélections. Bah, content pour eux aussi qu'ils puissent aller à la Coupe du Monde. Ça va faire du bien pour ces pays de voir une Coupe du Monde officiellement. Et puis pour les joueurs, l'expérience, tout ça, c'est intéressant. Quoi.
On attendait plutôt un pays sud-américain avec la Bolivie. Finalement, ce sera l'Irak. Ouais, voilà.
Finalement, il n'y a plus de petites sélections. Hein.
Il y aura un France-Irak le 22 juin à Philadelphie pour cette Coupe du Monde. Bon, ce n'est pas une affiche très glamour, mais bon, il faudra faire avec pour... Les hommes de Didier Deschamps, donc voilà, on connaît le groupe avec le Sénégal le 16 et le 26, le match face à la Norvège.
Premier match très compliqué.
Ouais, voilà, on va passer sur les autres rencontres, ces matchs internationaux, un petit mot sur les joueurs de l'OM qui étaient concernés par ces matchs internationaux. D'abord, Timothy Weah qui a perdu deux fois avec les États-Unis face au Portugal et à la Belgique. Deux matchs compliqués pour cette équipe américaine qui est dirigée par Mauricio Pochettino, l'ancien entraîneur du PSG.
C'est deux matchs amicaux qui arrivent là sur cette fin de saison. Le niveau de la sélection américaine, c'est pareil. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Après, tout dépend aussi de l'état de forme des autres joueurs. Donc, Non, après, le plus important, c'était qu'il ne se blesse pas, quoi, parce qu'on en a extrêmement besoin.
C'est vrai pour Habib Bey.
À l'OM. Donc, voilà, qu'il soit revenu sans bobo, c'est parfait. Après, le résultat, c'est...
Un des joueurs les plus réguliers. Puis bon, on rappelle que cette équipe américaine, ça sera un des pays hôtes. Donc, la compétition se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Voilà. Un petit mot sur Quentin Timber, qui a joué... qui était remplaçant lors du premier match face à la Norvège. Les Pays-Bas sont imposés 2-1. Et là, ils ont été accrochés par l'Équateur à Rotterdam mardi soir.
Ils ont
pris
un carton rouge.
Avec Denzel Dumfries, l'international néerlandais de l'Inter, qui a pris un carton rouge d'avant. Voilà.
Content qu'il soit sélectionné.
77 minutes mardi avec les Pays-Bas.
Et qu'il revienne sans bobo aussi, parce qu'on en a besoin au milieu de terrain.
Ouais, voilà. On rappelle lors de ce match un but contre son clan de William Pacho, international équatorien qui évolue au Paris Saint-Germain et qui rejouera peut-être dès demain avec le PSG, puisqu'il y a la Ligue 1 qui reprend avec un PSG Toulouse au Parc juste avant la Coupe d'Europe et la réception de Liverpool la semaine prochaine. Voilà, après, je ne sais pas si tu as regardé un petit peu les. Il y a Arthur Vermeeren aussi qui était concerné par les moins de 21 ans en Belge. Il était plutôt bon lors du premier match.
Non, je n'ai pas spécialement suivi. J'ai vu aussi qu'il y avait nos deux jeunes aussi de la formation, Antoine Valero et puis...
Tadjedine.
Milan Lecce, qui ont brillé avec les Bleuets là, contre la Suisse, puisqu'ils ont gagné 3-2. Là, donc, ils sont qualifiés pour le deuxième tour de l'Euro Espoir. Donc c'est bien, mais sinon c'est dans l'ensemble content de la prestation de ceux qui ont pu jouer avec leur sélection et que tout le monde revienne
indemne sur
Marseille.
On sait que c'est toujours un peu compliqué ces matchs internationaux du mois de mars, juste avant les échéances de fin de saison.
Parce que sur le dernier match, il y avait déjà Balerdi qui n'était pas parti avec sa sélection, puisqu'il avait une petite lésion au mollet sur le dernier match de championnat.
Geronimo Rulli qui était convoqué par, par Lionel Scaloni, qui n'a pas joué ni contre la Mauritanie, ni contre la Zambie. C'est Emiliano Martinez qui a joué les deux matchs qui se déroulent à la Bombonera de Buenos Aires, le stade de Boca Juniors.
Donc Balerdi a été resté sur Marseille pour se soigner. Donc on va voir s'il sera apte pour jouer ce week-end contre Monaco. Ouais. Mais non, voilà, content que tout le monde soit rentré indemne, sans bobo, sur cette dernière trêve internationale avant la fin du championnat.
Ouais. C'est vrai qu'on en aura grandement besoin pour aborder tous les rendez-vous qui nous attendent pour cette fin de saison. Voilà. Après, on va parler un petit peu de l'équipe de France aussi, avec aucun joueur de l'Olympique de Marseille qui était concerné par cette tournée américaine, avec deux victoires pour les hommes de Didier Deschamps, pas mal de turnover, des nouveaux visages, notamment Maxence Lacroix, le défenseur de Crystal Palace, qui a remplacé William Saliba, qui s'était blessé lors de la finale de la Carabao Cup juste avant la trêve.
Non, premier match... intéressant avec une nette victoire de l'équipe de France. Et puis, sur ce deuxième match avec l'équipe BIS, une équipe joueuse qui a proposé un meilleur contenu que l'équipe titulaire. Donc, ce deuxième match était beaucoup plus intéressant à regarder que le premier.
Pas mal de satisfaction pour Didier Deschamps un peu plus de deux mois de la Coupe du Monde.
De la Coupe du Monde, c'est là que tu t'aperçois qu'on a un sacré vivier en France de joueurs talentueux et que c'est hyper compliqué, je pense, que pour Didier Deschamps de faire sa liste pour à chaque fois en retenir que 22 ou 26 là, pour la sélection de la Coupe du Monde.
Voilà. On rappelle pour nos auditeurs que Didier Deschamps annoncera sa liste définitive le 14 mai.
C'est ça,
au lendemain d'un certain lance PSG qui a été remis par rapport aux modifications du calendrier de cette Ligue 1. Voilà, donc après, il y aura deux matchs de préparation avec la réception de la Côte d'Ivoire au Stade La Beaujoire début juin, le 4, et ensuite un autre match qui se déroulera à Villeneuve-d'Ascq au Stade Pierre-Mauroy contre un adversaire à déterminer, puisque pour l'instant...
Je pense que de toute manière, il ferait une revue d'effectifs avant la Coupe du Monde, ça sera des matchs amicaux, donc il n'y aura pas faut pas l'entendre grand chose avant la compétition, quoi. Donc, parce que je pense que les joueurs vont se préserver, ils vont pas vouloir se blesser gravement avant la Coupe du Monde. Hein.
Sinon, après, sur ces deux matchs face à des équipes sud-américaines, que ce soit le Brésil la semaine dernière ou la Colombie il y a 4 jours, il y a eu des joueurs qui ont marqué des points, des satisfactions.
Sur le match contre les États-Unis, je n'ai pas trouvé la sélection américaine vraiment apte à nous poser des problèmes.
Non, c'était le Brésil et la Colombie.
Ah oui, pardon, ouais. le Brésil, oui. tu gagnes contre le Brésil sereinement, puisque tu étais au-dessus techniquement. Physiquement aussi, tu étais au-dessus. Et contre la Colombie, je trouve que on a été techniquement supérieur aux Colombiens, parce que les Colombiens ont mis de l'impact physique. Et j'ai trouvé des fois quand même des interventions assez litigieuses sur nos joueurs, quoi. Donc, mais j'ai beaucoup aimé sur le deuxième match la prestation d'Akliouche.
Oui, malgré sa Cliouche, que l'on retrouvera dimanche soir face à l'OM avec l'AS Monaco, et qui a été peut-être un des grands gagnants de ce stage, aux États-Unis durant ce mois de mars.
Et puis, une très bonne prestation de Thuram devant aussi. Non, après, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus compliqué avec les remplaçants. Sur ce match contre la Colombie, finalement, une énorme surprise, parce que cette équipe a été beaucoup plus plaisante à regarder jouer que les titulaires du premier match contre le Brésil.
Ouais. Après, c'est vrai que c'était deux adversaires sud-américains, mais avec deux styles complètement différents. Ouais. Puis c'est vrai que quand on regarde un peu le parcours des deux équipes dans cette qualification pour la Coupe du Monde, les équipes, la Colombie a terminé troisième derrière l'Argentine et l'Équateur, alors que le Brésil a réussi à se qualifier, mais assez difficilement.
Ils sont pas encore au top, la sélection brésilienne.
Ils ont battu quand même à Orlando dans la nuit de mardi à mercredi la Croatie 3-1. Il y avait pas mal de joueurs qui n'avaient pas joué contre la France, avec un très bon Hendrick, l'attaquant de Lyon, qui est rentré, qui a réussi à provoquer un penalty et faire une passe décisive.
Ouais, non, franchement, le match contre la France a été compliqué pour eux. Après, ils jouent contre la Croatie, ça a été peut-être un petit peu plus facile avec les remplaçants. Et puis c'est pareil, la Croatie, est-ce qu'ils ont fait tourner. J'ai vu qu'il y avait Modric qui avait joué aussi. C'est une sélection qui est quand même vieillissante, la Croatie. Ouais. Donc, je pense que la victoire du Brésil contre la Croatie était un succès logique, quoi.
Voilà, on va enchaîner aussi avec les rencontres des championnats européens ce week-end avec la Cup. Et d'abord, on va parler encore de l'Italie avec Donnarumma. On ne sait pas s'il sera titulaire ou pas. Il y a un match contre Liverpool qui se dispute à l'Etihad samedi après-midi à 13h45.
On va voir ce que Guardiola va décider. Est-ce qu'il va le titulariser dans les buts de City,
en sachant qu'il y avait James Trafford qui était appelé par Thomas Tuchel pendant cette trêve, qui avait joué juste avant la coupure, la finale de la Carabao Cup face à Arsenal et le succès de 2-1.
Ouais, de 2-1 contre Arsenal. Ouais. Peut-être qu'il va le laisser se reposer, puisque... c'est la Cup, c'est un match à élimination, donc à voir ce que va faire Guardiola avec Donnarumma.
Voilà. Après, sur l'Espagne, il y a un Atlético-Barça samedi soir qui est peut-être un avant-goût de ce qui nous attend la semaine prochaine avec la rencontre entre ces deux équipes en Ligue des Champions. Voilà, sachant que le match aller de cette Ligue des Champions aura lieu au Camp Nou en Catalogne.
Logiquement. On va dire que c'est Barcelone devrait gagner. Mais avec l'Atlético, finalement, on ne s'est jamais gagné d'avance, puisqu'ils arrivent à sortir des prestations assez plus qu'intéressantes. Et non, c'est possible que ce week-end, en championnat, le Barça se fasse accrocher. Hein.
Un petit mot sur Robert Lewandowski, qui a connu une énorme déception avec la sélection polonaise.
Comment, c'est pareil, je pense qu'il aura squeezé rapidement.
En sachant qu'il y a un titre en championnat qu'à aller chercher.
Je pense qu'il sera. C'est un international qui a énormément d'expérience et je ne me fais pas de mal pour lui. Il sera prêt pour ce match important ce week-end contre l'Atlético.
Il n'est pas comme Lamine Yamal ou Rafinha qui ont joué aussi avec le Brésil et l'Espagne, mais bon, qui ne jouaient pas des rencontres décisives.
C'était des matchs amicaux, l'Espagne, tout ça. Donc, je ne me fais pas de soucis pour Robert.
Voilà. Après le championnat d'Allemagne, par rapport à la Ligue des Champions, il y a le Real qui jouera la semaine prochaine face au Bayern.
Ouais.
Un petit mot sur Michael Olise qu'on a vu lors du premier match face au Brésil. Il est impressionnant.
C'est un joueur qui est impressionnant et qui a été couvé, bichonné par le Bayern, parce que c'est un joueur qui n'a pratiquement pas joué en France. Hein.
Ah ouais.
Il est parti très tôt.
Et on rappelle pour nos auditeurs qu'il a choisi la sélection française plutôt que l'Angleterre, lui qui est né en Angleterre. Voilà. Le Bayern qui jouera face à Fribourg samedi pour cette reprise de Bundesliga avait 9 points d'avance par rapport au Borussia Dortmund.
Non, je pense que c'est un match sans difficulté ce week-end pour le Bayern, mais avant la confrontation contre le Real la semaine prochaine en Champions League. Mais c'est vrai que Michael Olise, c'est un super joueur. C'est, pour les attaquants, la Bundesliga, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Quoi. Pour vraiment éclater aux yeux de l'Europe et du monde, je pense que c'est peut-être le meilleur championnat pour les jeunes attaquants quand ils veulent partir de France. S'ils arrivent à être recrutés par un club allemand, je trouve que c'est la meilleure vitrine.
En sachant qu'il y aura aussi toujours samedi à 18h30 un match entre Stuttgart et le Borussia Dortmund. Même s'il y a 8 points de retard les deux équipes,
je vois pas le Bayern calé là dans
la dernière ligne droite.
Si Dortmund a l'expérience aussi, parce qu'ils ont gagné quand même pas mal de titres aussi, mais là je pense encore que cette saison le titre il va retourner en Bavière.
Un petit mot sur d'ailleurs Upamecano qui a pris un carton rouge face au Brésil et qui joue aussi.
C'est des faits de jeu. Après, c'est un joueur qui a l'expérience. Il sera là ce week-end.
C'est un pilier de l'équipe de France sur le poste de défenseur.
Après, ça arrive. Hein. Des fois, il vaut mieux prendre des fois un carton rouge qu'un but. Donc, je pense que il sera là au poste dans la défense centrale de son club ce week-end.
Après, on va parler aussi un petit peu du championnat italien avec, comme je le disais, l'élimination de la sélection par rapport au championnat, la Serie A. Le Naples-Milan lundi en clôture et Inter-Roma. C'est deux matchs phares avec pas mal d'internationaux.
Après, est-ce que le seul souci que les joueurs pourraient avoir, c'est un accueil mais de mécontentement par rapport au public. Mais est-ce que quand c'est les clubs qui jouent, c'est généralement ils mélangent pas la sélection et les supporters des clubs, donc. Je pense que les joueurs mentalement, je pense qu'ils vont squeezer rapidement aussi et ils seront avec leur club pour cette fin de championnat en Serie A. Quoi.
Un petit mot sur les internationaux français qui évoluent en Serie A. Marcus Thuram, on parlait de son but face à la Colombie et son passage remarqué lors de cette tournée aux États-Unis avec l'Inter.
Après, ben, il a quand même un concurrent avec Lautaro Martinez à l'Inter.
Lautaro qui n'était pas convoqué là, à l'occasion de cette trêve avec la sélection argentine.
Il a marqué des points, Marcus. Maintenant, est-ce que l'entraîneur de l'Inter va le faire jouer directement ce week-end? Je ne sais pas. Après, souvent, il alterne. Hein, soit il met Lautaro titulaire ou il change... en cours de jeu, ou alors des fois il associe les deux aussi, mais à voir comment il compose son équipe sur la prochaine journée de championnat.
Un petit mot sur Manu Koné qui était absent de cette tournée pour cause de blessure et qui devrait être dans l'avion pour les États-Unis avec cette équipe de France qui fait une très belle saison avec, sous les ordres de Giampiero Gasperini à la Roma.
Non, mais c'est un bon joueur. Maintenant, est-ce qu'il sera disponible pour la Roma ce week-end? Je ne sais pas.
Pour l'instant, on ne sait pas est-ce qu'il sera remis, rétabli.
Est-ce qu'il sera dans le groupe? Faudra voir, surveiller ça de près pour ce week-end. Mais je ne me fais pas de soucis pour lui. Il sera dans la sélection de Didier Deschamps le 14 mai pour aller aux États-Unis cet été.
Et sur le match Naples-Milan, un petit mot sur le poste de gardien de but, Mike Maignan, qui a joué le premier match face au Brésil et qui a été remplacé par Brice Samba lors du deuxième match face à la Colombie.
Mac Maignan, pour moi, c'est le numéro 1 de l'équipe de France. C'est le gardien de Didier Deschamps. Brice Samba a fait un bon match contre la Colombie, mais c'est Mike qui sera numéro 1 pour la Coupe du Monde. Et puis après... C'est un grand gardien, il fait des superbes prestations avec le Milan AC, donc je ne me fais pas de soucis sur lui sur cette fin de saison en Serie A. Quoi.
Adrien Rabiot, l'ancien Marseillais, qui a joué le premier match face au Brésil et qui n'a pas joué la moindre minute face à la Colombie, mais bon, c'est un pilier.
Il y en a plein qui n'ont pas joué contre la Colombie. Mais, ouais. Non, mais c'est un pilier, pour moi, indétrônable du milieu de terrain de l'équipe de France. Puis après, on voit ce qu'il peut apporter au Milan AC tous les week-ends en Serie A. Donc, c'est un joueur de classe mondiale. Donc... pourquoi on s'en est séparé, ça restera un mystère.
Bon, après, il y a d'autres joueurs aussi, comme Youssouf Fofana, qui peut éventuellement postuler, qu'on peut éventuellement revoir en équipe de France, même s'il part quand même d'assez loin.
Après, on peut parler de petites secondes, c'est le déclassement de Camavinga.
Au niveau de l'équipe de France, c'est vrai que Camavinga, qui est loin d'être sélectionné pour cette Coupe du Monde,
en sachant. Attention.
Ouais, c'est vrai, tu fais bien d'en parler, parce que c'est vrai que Eduardo Camavinga, qui jouait pas beaucoup déjà avec Xavi Alonso et qui joue pas énormément avec Alvaro Arbeloa depuis le changement d'entraîneur au Real.
À voir ce qui va se passer sur cette fin de saison avec le Real. Mais attention, c'est possible qu'il ne soit pas dans la liste le 14 mai.
Et un petit mot sur Ryan Cherki, qui a été titulaire face à la Colombie, le terrain.
Il fait une belle prestation.
De City.
Ouais, et puis après, sur les matchs, quand Guardiola le met titulaire, il est toujours là. Hein, il arrive à
Même si c'est vrai que ces derniers temps, il a un petit peu moins joué, même s'il était titulaire à Wembley pour la finale de la Ligue, juste avant la trêve.
Après, on sait que Guardiola, c'est un jeune joueur encore, Cherki, qui vient d'arriver en Première Ligue. Il le fait jouer avec parcimonie. T'as quand même encore un sacré effectif à Manchester City. Donc, il arrive à se faire sa place tout doucement. Ce qu'il arrive à faire, c'est magnifique, quoi. Parce que quand même, quand il s'en va de l'Olympique Lyonnais, on se dit ça va être compliqué pour lui de s'installer, de performer dans cet effectif-là. Et avec le talent qu'il a, ben, on voit que tout doucement, il arrive à faire sa place et que le jour où Bernardo Silva va complètement arrêter ou partir de City, ben, le remplaçant, il est tout trouvé. Hein. Et Cherki, il aura sa place dans le 11 de départ de City. Maintenant, est-ce que ça sera toujours sous les ordres de Pep Guardiola? Ça restera...
On ne sait pas. En tout cas, il y a des rumeurs qui annoncent peut-être la fin de Pep Guardiola en fin de saison. Et puis bon, on parle de plus en plus de Enzo Maresca, le technicien italien qui a été viré de Chelsea il y a quelques semaines. Et qui a cédé sa place à Liam Rosenior, l'ancien entraîneur du Racing Club de Strasbourg.
Je suis pas spécialement convaincu par le technicien italien là pour remplacer Guardiola à City.
C'est peut-être pas le meilleur choix pour.
Je pense pas. Personnellement, maintenant, on n'est pas dans les tenants et aboutissants du bord de City, mais je pense qu'il y a mieux à trouver, quoi. Alors, c'est sûr que des fois, c'est comme les joueurs, des fois, ils réussissent pas dans un club, et puis d'aller signer dans un autre club, tu les vois performer, mais pour un entraîneur, je pense que ça soit sur le banc de City ou sur le banc de Chelsea, il y a quand même des effectifs conséquents. Si tu n'arrives pas à imposer ta patte à Chelsea, c'est que c'est compliqué, quoi.
Même si on sait que Liam Rosenior est en grande délicatesse.
En grande difficulté aussi.
Depuis sa nomination. Et je pense que l'élimination en Ligue des Champions face au PSG, il est beau pour beaucoup dans le fait que les dirigeants, pour l'instant, hésitent encore à le conserver pour la saison prochaine.
On ne sait même pas s'il va finir la saison.
Ouais, parce que,
il est possible aussi qu'il soit... Voilà.
Comme on l'évoquait en début d'émission, Tottenham s'est séparé d'Igor Tudor. Et puis bon, c'est quand même un club qui a gagné l'Europa League la saison dernière avec... le technicien australien Ange Postecoglou et on rappelle qu'en début de saison il y avait Thomas Frank, l'entraîneur danois, qui est arrivé de Brentford sur le banc des Spurs. Donc c'est difficile, il y a beaucoup de mouvements au sein des entraîneurs dans ce championnat d'Angleterre.
Le problème, c'est que dès que tu n'as plus de résultats, c'est compliqué, hein. Maintenant que ça soit même si les clubs anglais sont hyper riches, il faut quand même, il y a une pression de résultat par rapport aux sponsors à tout, et derrière il faut que ça suive, quoi, parce que sinon les patrons des clubs ils laissent pas les entraîneurs en poste s'ils n'ont pas de résultats.
On sait que généralement quand il y a des mauvais résultats, le premier fusible c'est toujours l'entraîneur.
On peut facilement virer un entraîneur, mais
c'est plus facile de virer l'entraîneur que l'effectif ou les 11 titulaires.
C'est ça, c'est comme ça depuis la nuit des temps, et je pense pas que ça change un jour.
On l'a vu, c'est vrai que là, nous en France, cette année, il y a eu beaucoup de changements. Puis bon, l'OM est concerné, puisqu'il y a eu ce départ de Roberto De Zerbi qui rebondit un mois et demi après son départ.
C'est des entraîneurs qui ont quand même une aura importante. Donc, c'est des entraîneurs qui retrouvent facilement des clubs, surtout en Première Ligue. Ils ont la cote. Je me faisais pas de soucis pour lui. Je savais très bien qu'il allait retrouver un club rapidement. Si ce n'était pas avant la fin de la saison, ça aurait été pour le début de saison prochaine. Il aurait retrouvé un effectif. Donc là, voilà, ça s'est fait à Tottenham. Tant mieux pour lui. Maintenant, à lui de prouver qu'ils ont bien fait de le signer.
Voilà. Il nous reste encore un petit quart d'heure. Je voulais parler un petit peu aussi des adversaires de l'équipe de France qui vont jouer pendant la Coupe du Monde avec la Norvège qui a perdu face aux Pays-Bas de Quentin Timber des buts à 1 qui a été accroché face à la Suisse.
Ouais, après c'est une jeune sélection la sélection norvégienne, donc
troisième adversaire de l'équipe de France. Voilà, le 26 juin.
Je crois que c'est leur première Coupe du Monde, non?
Depuis 98
ils étaient en France à la Coupe du Monde.
Dernière participation de cette sélection norvégienne.
Donc non, c'est après maintenant le joueur numéro 1 de cette sélection, c'est
Erling Haaland.
Donc ça dépendra de l'état de forme des joueurs, mais des fois c'est une sélection qui est compliquée à jouer, hein. C'est sélection nordique qui lâche rien, un peu comme la Suède, le Danemark, ça joue un peu pareil, mais non, c'est une équipe qui peut, même si on est supérieur à eux, je pense qu'ils peuvent nous poser des problèmes si on ne les respecte pas et qu'on balbutie notre football.
Ben on l'a vu aussi à travers le parcours de Bodo Glimt cette année en Ligue des Champions. Si c'est vrai qu'il y a très peu d'internationaux norvégiens
dedans.
À part l'ancien Lensois, Patrick Berg, qui était du rassemblement durant cette trêve avec la sélection norvégienne. Mais c'est vrai qu'on peut parler aussi de Odegaard, qui joue moins avec Arsenal, Alexander Sorloth, qui découvre la Liga espagnole avec l'Atlético.
Non, mais il y a des bons joueurs, hein, attention. Hein,
c'est un adversaire qui est...
Ça peut être une énorme surprise à la Coupe du Monde. Hein. Alors après, ils peuvent arriver à se qualifier aussi. Hein. Sortir des poules et puis aller en 16e de finale. Hein.
Voilà. Bon, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop la sélection irakienne. Et un petit mot sur le Sénégal qui s'est imposé face au Pérou au Stade de France samedi, 2-0.
La présentation de la CAN.
Bon, même si après il y a eu cette polémique, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il en sera.
C'est ce qu'il en sera, puisque le TAS n'a pas encore rendu son verdict.
On sera probablement fixé d'ici la fin de l'année, ça risque d'être long.
Enfin, je ne sais pas si ce sera long, mais après la CAF se pliera à la décision du TAS. Mais non, après le match contre le Sénégal, pour l'équipe de France, ça va être c'est le plus gros morceau du groupe, et ça peut être un match très 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 compliqué contre cette sélection sénégalaise.
Ouais. Parce qu'il y a des Sénégal s'y s'est imposé 2-0 avec un but de Nicolas Jackson, l'attaquant du Bayern, et ainsi que Ismail Assar, l'attaquant de Crystal Palace, qui était à l'Olympique de Marseille il y a quelques années.
Je pense que c'est à voir comment Didier Deschamps va aborder cette rencontre-là, mais ne surtout pas refaire le même match qu'on avait fait en Coupe du Monde, là, quand on avait été sorti au premier tour, qu'on avait rencontré le Sénégal.
Oui, en 2002. En 2002. Avec un but du regretté Papa Bouba Diop, l'ancien joueur du Racing Club de Lens, tragiquement disparu.
Non, je pense que ce premier match, c'est tout sauf une partie de plaisir.
Ouais, on a eu l'occasion de les voir là, durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Puis bon, nous à Marseille, on connaît bien Iliman Ndiaye aussi.
Je pense qu'ils seront.
Qui fait une très belle saison avec Everton. En première ligue.
Ils seront bien présents, que ce soit tactiquement, physiquement, ils sont impressionnants, même avec Pape Gay, qui était à l'OM aussi, maintenant qui est à Villarreal, qui est un joueur au milieu de terrain qui a pris de l'expérience, qui arrive dans la maturité du football. Donc non, ça va être très 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 compliqué ce match contre la sélection sénégalaise.
Après, je voulais parler aussi un petit peu des deux sélections maghrébines que sont l'Algérie et le Maroc, avec l'Algérie qui a battu le Guatemala 7-0 à Gênes vendredi soir et qui a fait match nul 0-0 à Turin contre l'Uruguay de Marcelo Bielsa.
C'est ça, ouais. Et le Maroc a gagné 2-1 contre mardi soir contre je sais plus le
contre le Paraguay
contre le Paraguay,
le Paraguay. La rencontre se joue au Stade Bollaert de Lens, un gros soutien de la part du public marocain. Et qui avait fait match nul au Metropolitano de Madrid vendredi soir face à l'Équateur. D'ailleurs, il y avait un affrontement entre Achraf Hakimi et Willian Pacho, les deux capitaines qui évoluent sous les couleurs du PSG ensemble. Voilà. D'abord, pour en revenir à l'Algérie, cette équipe avec Amine Gouiri qui a pris du temps de jeu après sa blessure et son forfait à la CAN en janvier.
La sélection algérienne, ça peut être encore une surprise comme elle a déjà fait en Coupe du Monde. C'est une équipe une sélection qui peut sortir des poules et puis se qualifier pour un huitième, voire même un quart de finale. Tout dépendra des tableaux. Mais
l'Algérie qui est dans le groupe avec l'Argentine.
Ouais. Okay. Ouais. Non, mais je pense que ça peut finir deuxième de son groupe. Hein. Si ça joue sérieusement, ils peuvent arriver à se qualifier pour la suite de la compétition.
On verra comment Vladimir Petkovic compose son groupe pour la Coupe du Monde. Mais bon, il y a quand même de bons joueurs, de bonnes individualités.
Il y a beaucoup de, comme tu dis, de bons joueurs d'individualité qui jouent dans les grands championnats européens. Donc, je ne me fais pas de soucis pour la sélection algérienne.
Et le Maroc non,
bah pareil. Ouais. Hein,
qui jouait sans Naïef Aguerd, puisqu'on sait qu'il a été opéré.
Non, c'est une sélection qui a fait une belle CAN malgré cet épisode de la finale là, contre le Sénégal, mais qui a récupéré de l'expérience, qui a des internationaux pareil, qui jouent dans tous les grands clubs européens maintenant et qui... pour moi, qui peut arriver à se qualifier aussi pour la suite de la compétition en sortant des poules à la Coupe du Monde. Hein. Donc, non,
le Maroc qui jouait ses premiers matchs sous les ordres de Mohamed Wahbi, fraichement nommé à la tête de la sélection, en remplacement de Walid Regragui, qui devrait peut-être rebondir sur une autre sélection, parce que durant cette trêve, on a appris qu'apparemment, peut-être
Hervé Renard
allait quitter son poste de sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Et puis, il y a aussi Otto Addo, le sélectionneur du Ghana qui a perdu sur la pelouse de Stuttgart face à l'Allemagne lundi soir et qui a été limogé. Donc il y a peut-être un poste sur une sélection africaine.
Je me fais pas de soucis pour
Walid Regragui qui a fait ses preuves.
On va rapidement une sélection. Ça là-dessus, je me fais aucun doute pour lui. À retrouver un banc très rapidement.
On l'a vu à travers son parcours avec cette sélection marocaine au Qatar il y a 4 ans, avec ces Lions de l'Atlas.
Non, ils peuvent aller loin encore en Coupe du Monde, la sélection marocaine. Hein. Non, c'est des équipes maintenant qui... c'est plus des petites sélections, comme avant on disait, c'est les petites sélections de l'Afrique.
Il y a beaucoup de joueurs binationaux intégrés, notamment le petit Bounida, je crois, qui joue en Eredivisie, championnat néerlandais, avec l'Ajax d'Amsterdam, qui a fait ses débuts en sélection marocaine. Mais bon.
Non, après, la sélection marocaine, on la connaît, hein, déjà avec le capitaine du PSG.
Achraf Hakimi, qui est toujours là. Hein.
Oui, non, c'est... non, et puis... voir comment Brahim Diaz a digéré cette
finale,
cette Panenka de la finale de la CAN. Donc non, ils ont un bel effectif aussi, donc je me fais pas de soucis pour eux. Ça, pour moi, ça devrait sortir des poules et continuer la compétition dans les matchs à élimination directe.
Un gardien expérimenté aussi, Yacine Bounou,
qui évolue très bon gardien.
Qui évolue sous les ordres de Simone Inzaghi en Arabie Saoudite avec Al Hilal et coéquipier de Karim Benzema.
On en avait parlé un moment à l'OM.
Ouais, c'est vrai, c'était un bon gardien. Puis bon,
Geronimo Rulli arrive, on parlait de Bounou à l'OM, mais finalement c'est Rulli qui est arrivé.
On évoquait aussi le Sénégal avec Edouard Mendy. Qui est titulaire. Yevan Diouf aussi, qui joue un peu moins avec l'OGC Nice, mais bon, qui reste quand même un gardien de bon niveau qu'on a connu le Stade de Reims l'année dernière.
Non, ils ont une belle sélection. Je ne me fais pas de soucis pour eux.
Voilà. Naïef Aguerd qui devrait retrouver le groupe pour la Coupe du Monde.
Oui, il sera là. Je pense que là, d'ici... peut voir peut-être les deux derniers matchs de Ligue 1, il rejouera avec l'OM et puis il partira avec la sélection à la Coupe du Monde.
Voilà. Pour la préparation. Il y aura un déplacement au stade Océane le 9 mai pour l'avant-dernière journée et la réception du stade Rennais au Vélodrome le 16 mai, juste avant, je ne sais pas à quelle date Mohamed Wahbi, le sélectionneur marocain, donnera sa liste pour cette Coupe du Monde, mais bon... On espère le revoir fouler les pelouses de Ligue 1 avant la fin de saison
pour lui.
pour être dans le groupe du Maroc pour la Coupe du Monde.
J'ai aucun doute là-dessus, il y sera.
Apparemment, bon, c'est vrai qu'il a été opéré d'une pubalgie, donc voilà, à Bordeaux, il y a quelques semaines. Voilà, il nous reste encore 5 minutes, donc on peut parler aussi, je ne sais pas si tu as des coups de cœur, des coups de gueule par rapport à cette trêve internationale sur une équipe, une sélection.
Non, il n'y a pas de coup de cœur ni de coup de gueule à donner sur cette trêve internationale. Il y a eu des résultats plus ou moins logiques, avec des résultats surprenants sur les derniers qualifiés de la Coupe du Monde. Mais c'est le football, c'est comme ça. Ça arrive tous les 4 ans que des grosses nations ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde. Ça arrivait à l'équipe de France aussi. Donc, voilà. Y a pas à dénigrer ou l'arbitre. C'est, si on n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, c'est qu'on n'a pas fait le job. Donc, voilà. À eux de travailler pour se requalifier pour les prochaines Coupes du Monde.
Toi, tu vas la suivre, cette Coupe du Monde, en fin de saison, en Amérique du Nord, malgré tout ce qui se passe et le contexte géopolitique.
Bien sûr que c'est toujours une compétition.
C'est un événement planétaire. C'est l'événement le plus suivi au monde.
Exactement. Non, mais
avec les Jeux Olympiques.
Bien sûr qu'on va suivre cette Coupe du Monde. Après, maintenant, c'est vrai que c'est loin. Donc, c'est, ça n'a pas le même... attrait que quand c'est sur le continent européen ou que c'est dans un pays limitrophe de la France. Donc on peut des fois se faire les déplacements, aller voir quelques matchs. Mais là, c'est vrai que pour...
Le décalage horaire qu'il y aura entre le Mexique, les États-Unis et
Canada,
le Canada.
Ça va être des matchs en pleine nuit, certainement, en fin de soirée ou voire au petit matin pour voir des matchs au Mexique, c'est possible. Je ne sais pas à quel moment ils vont faire jouer l'équipe de France. Mais après, non,
Les trois matchs de poule sont déjà programmés. Ce sera 21h face au Sénégal, 23h face à l'Irak et 21h face à la Norvège.
C'est déjà un match à l'horaire normal.
Pour les supporters français qui regarderont les matchs depuis la France.
Il n'y a que le match à 23h contre l'Irak qui est un peu plus tardif. Mais sinon, 21h, c'est l'heure des matchs de Ligue 1 ou de l'équipe de France quand elle joue en Europe. Donc, il n'y a pas de problème pour ça.
C'est vrai que ce France-Irak, le 22 juin à Philadelphie, à 23h, ce n'est pas l'affiche la plus alléchante de cette Coupe du Monde. Mais bon, en tant que supporter, on prendra quand même le soin de la suivre.
Exactement. Non, on suivra ça avec grande attention parce que... De jouer une Coupe du Monde, c'est jamais anodin. Et puis, si on pouvait imprimer une troisième étoile sur le maillot, ça serait parfait.
Voilà, la France qui fera bien office de favori sur cette Coupe du Monde. Et puis, on prendra plaisir à suivre. Ça sera la dernière de Didier Deschamps avant
de laisser la main à
Zidane, voilà. Voilà, avec la Ligue des Nations qui se profile dès cette fin de Coupe du Monde avec les premiers matchs au mois de septembre.
C'est ça. Et après, il a du mal à... Il ne veut pas en parler de
ça. Même si ça n'a pas encore été officialisé par la part du président de la fédération, Philippe Diallo.
Il a plus ou moins vendu la mèche quand même, mais Didier Deschamps, il a quand même du mal à vouloir en parler de sa succession. Et puis après, maintenant, quiz... de ce qu'il va vouloir faire après l'arrêt de l'équipe de France. Est-ce qu'il va vouloir prendre une année sabbatique
Comment tu vois l'avenir de Didier Deschamps après cette Coupe du Monde? Tu penses qu'il va se reposer? Il va rebondir sur un banc de club?
Je pense qu'il va prendre une année sabbatique parce que...
Il va se consacrer à sa famille, ses enfants, son fils, sa femme.
Ouais. Et puis, c'est possible qu'on le revoie sur un banc d'un grand club européen avant la fin de sa carrière. Après, je le vois mal aller prendre une sélection d'une autre nation. Alors maintenant...
Si on parle de lui peut-être succéder à Rino Gattuso sur le banc de l'Italie.
Il ne faut jamais dire jamais, mais je le vois mal aller.
Encore jeune, Didier Deschamps.
Oui, non, mais même s'il aime beaucoup l'Italie.
On sait qu'il a déjà entraîné la Juve. Il a joué à la Juve pendant plusieurs saisons. Il a côtoyé d'immenses techniciens tels que Fabio Capello, Carlo Ancelotti, Marcello Lippi.
C'est quelque chose qui tient la route. Hein. C'est pas, il pourrait très bien aller prendre la place de Gennaro Gattuso sans problème. Hein,
où on se parle, c'est peut-être pas un vœu pieux que Didier Deschamps peut éventuellement accepter la proposition de la fédération italienne.
Ça serait même pas bête de sa part de l'accepter parce que ça permettrait peut-être à la Squadra de retrouver un niveau de jeu plus qu'intéressant et de redevenir une grande nation mondiale du football. Parce que là, c'est un peu la chute libre Autant footballistiquement, financièrement, ça va être compliqué dans les années à venir pour la fédération.
Déjà pour préparer le prochain Euro et un peu plus loin, la Coupe du Monde qui se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal.
Non,
c'est l'édition 2030.
Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise de Didier Deschamps d'accepter, par exemple, la nomination à la tête de la Squadra.
Bon, ben, on verra.
On suivra ça avec intérêt.
Voilà. Bah, de toute façon, la prochaine fois, ce sera pour la liste des joueurs pour la Coupe du Monde.
Le
14 mai. Voilà. On donne rendez-vous à Didier Deschamps. Voilà. On se quitte après. Voilà. C'est déjà la fin de cette émission. Voilà. On se quitte. Ça passe tellement vite, cette petite heure. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer les Coupes d'Europe qui reviennent avec la Ligue des Champions, le PSG qui recevra Liverpool mercredi soir au Parc. On parlera aussi du Racing Club de Strasbourg qui marche plutôt pas mal en Ligue 1 et qui jouera face à une équipe de Bundesliga, Mayence.
Voilà. Qui a toutes ses chances.
Voilà. Donc, un beau programme en perspective. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et on dit bye bye à tous nos auditeurs.
Ciao.
Ciao.